Hey, Thomas.
Oui.
Tu sais comment on reconnaît un zombie?
Tu vas dans Zootechnival?
Ouais, c'est à peu près ça.
Tu l'avais déjà faite, la blague sur Zootechnival et les zombies.
Ah merde, celle où ils ont le teint blafard, où ils ont la mâchoire qui tombe, le regard vide et des propos incompréhensibles.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Ah, et tu sais que c'est pour ça que Van Helsing il a interdit Zootechnival. Et maintenant, je passe mon cerveau sur essorage. Allez, normalement les pubs et ensuite on commence. Est-ce que ça ressemble pas à de la pub? Allez Thomas, je te prie. Allons-y, hop.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 31 octobre 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h, du reggae avec Jano Dead, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le bal des affreux qui fait peur que vous attendez tous.
Radio FMR présent. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, ultimatum, Dastrich, JB, et la participation exceptionnelle de Michael Jackson.
Non, mais la voix à couilles, c'est du sport qui le fait le mieux.
Ouais, mais j'ai pas envie.
D'accord.
Sinon, ça te prend souvent de faire le jingle en t'enregistrant dans la salle de bain en train de jouer au Game Boy?
C'était pas dans la salle de bain, c'était dans la chambre, mais il y a l'effet derrière.
D'accord.
C'est extrait d'un excellent album qui est disponible gratuitement sur le net, qui s'appelle Weezer's 8-Bit Album. C'est un label qui s'appelle Pterodactyl Squad qui le fait. Donc là, c'est la reprise par Video Game Orchestra de Island the Sun. Donc le but du jeu, c'est très simple, c'est ils ont repris des vrais outils. Là, c'est joué avec une Nintendo, NES et un Amstrad et un truc comme ça. Ils reprennent des morceaux de Weezer comme ça, remixés avec le son des jeux d'antan.
En tout cas, ils ont bon goût.
C'est assez rigolo en plus. Tout n'est pas écoutable dans l'album et on mettra des références évidemment dans le site internet de l'émission supplementweekend.fr. Qu'est-ce qu'il y a?
Je vois que tu as fait un effort sur le t-shirt aussi pour cette occasion.
Un t-shirt qui a une histoire, mais bon, ça c'est autre chose. Jeu de rôle français, innominé Satanis Magna Veritas. Ils ont vainement tenté de sortir aux États-Unis. Le t-shirt promotionnel est sorti 4 ans avant le jeu vidéo. Avant le jeu de rôle, pardon.
D'accord.
Faut dire aussi que des anges qui se révèlent plus salauds et vicieux que des démons, ça le faisait pas trop. Enfin bon, bref, pas mal de news cette semaine. La première d'entre elles est une polémique qui a été lancée sur l'antenne de notre confrère RTL.
C'est une polémique qui va décider de notre destination de vacances fin janvier.
Alors moi je ne fais pas le pari, j'en ai discuté hier avec Didier Passamonique qui est le producteur, je veux dire, hein, de Actua BD, l'éminence grise.
Rédacteur adjoint.
Rédacteur en chef adjoint, éminence grise de la bande dessinée et tout ce que vous voulez. Et invité hier sur France Inter à 15h pour en discuter, il a dit pour ça que je peux pas venir en parler, ça faisait un peu trop. Je lui ai dit ouais c'est ça, tu prends les petites radios plutôt que les grandes, c'est sympa tiens. Bref, on en a discuté, donc en fait la question c'est que en janvier il y aura le 37e festival d'Angoulême et la mairie commence à dire ça nous coûte cher cette histoire. Angoulême est une agglomération, mais c'est surtout une petite ville de 42 000 habitants qui subventionne tous les ans un festival à hauteur de 1,2 million. C'est pas rien, hein, un point de vue charge par habitant. Et tous les ans, il y avait cette histoire, oui, bon, on va peut-être le faire à Paris cette année parce qu'Angoulême veut plus, etc. Donc, ce qu'a fait l'association, c'est qu'ils avaient fait une espèce de contrat tous les 3 ans qui est renégocié pour dire ben voilà, on est assuré tel financement de la part de la mairie, c'est déjà ça. Parce que tous les ans, on avait l'organisateur qui jouait les pleureuses auprès du ministre de la Culture et tout le reste. Ce qui s'est passé, c'est que là, on arrive à terme d'un contrat. Et ça, on l'avait pas trop entendu parler justement sur RTL. C'est pour ça que ça commençait à devenir un petit peu problématique. Il y a aussi autre chose qui s'est passée. C'est vrai que l'État se désengage de plus en plus d'une partie des services publics et reporte ça sur les collectivités locales, que ce soit les conseils généraux, les conseils régionaux et les municipalités, bien évidemment. Et que donc la mairie se retrouve coincée entre faut-il encore augmenter les impôts ou augmenter la dette pour assurer le même qualité de service à l'égard des angoumoisins. C'est une question qui est générale en France, de toute façon, sur l'ensemble des 36 000 municipalités. Hein. Ça, on va pas en reparler. Je veux dire, c'est une question de politique générale. Mais ce qui est plus intéressant dans le cadre d'Angoulême, c'est qu'il y a eu cette année une élection municipale. Or, jusqu'ici, le nouveau maire et aussi le président de la commission des finances du Conseil Général des Charentes, mais aussi est de gauche. C'est un socialiste. Or, c'est le retour aux affaires des socialistes après, le départ précipité de l'ancien maire Jean-Michel Boucheron en 89, qui avait laissé une dette colossale à la mairie d'Angoulême de 1,2 milliard de francs. Je rappelle que il y avait, je vérifiais à l'époque, c'était 46 000 habitants. Ça fait quand même beaucoup, ça fait une dette monstrueuse. Et le maire suivant, Philippe Mottet, donc qui a régné toutes les années 90 et une partie des années 2000 avec une étiquette RPR puis UMP, a fait en sorte, de redresser les comptes de la mairie et de rembourser une partie de la dette. Donc les socialistes se retrouvent au pouvoir et se disent, bon, alors c'est très simple. Soit on repart dans l'échelle de la dette et on a définitivement mauvaise presse, soit on fait des coupes, on fait des économies. Il y a 7 grands festivals à Angoulême, il y a Musique Métis, en dehors du festival à la bande dessinée, il y a Musique Métis qui est un festival de musique du monde en mai, que Radio FMR d'ailleurs couvre aussi. Il y a les Gastronomades, il y a le rallye des vieilles du Rempart, qui est un rassemblement de vieilles voitures qui a lieu en septembre, si je me trompe. Bref, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est le festival à bande dessinée, qui est le plus gros festival et qui fait vraiment la notoriété d'Angoulême, qui fait le plus de bruit. Et là, ils disent, les autres festivals, à mon avis, n'avaient pas la notoriété pour faire autant de bruit que le festival d'Angoulême en disant « Ah, on nous spolie », etc. Et il y a aussi la nouvelle organisation du festival. Donc le festival, au départ, est une association. Une société a été créée cette année pour organiser et pour gérer les produits dérivés et pour gérer les finances, du festival en lui-même. Et c'est peut-être un peu ça qui agace la mairie, parce qu'en fait, ils subventionnent de manière indirecte une société. Ça ne le fait pas trop, alors que jusqu'ici, ça marchait plus ou moins bien. Didier a une autre analyse. Il dit que pour lui, c'est la fin des années fastes d'Angoulême. Pour moi, c'est déjà la fin depuis un bail, c'est-à-dire qu'on n'a plus de gros trucs de. C'était l'année, les années où on avait des expositions en plein air avec des théâtres de rue, des trucs immenses, comme l'avait fait la Corée du Sud quand ils étaient venus, comme l'avait fait Book quand il était président. Tout ça, c'est terminé. Voilà. Ce sera peut-être une époque d'austérité, ou alors. Le festival d'Angoulême va se diversifier dans d'autres secteurs, peut-être dessin animé au détriment dans ce cas-là d'Annecy ou d'autres choses. Donc voilà.
Alors moi je suis moins spécialiste que toi, donc je peux pas trop argumenter par-dessus. Il faut juste espérer, a priori d'après Actua BD, le festival cette année n'est pas remis en cause. Mais
à mon avis, il n'y a aucune chance. Après, la Cour des comptes a épinglé la municipalité d'Angoulême, comme quoi ils subventionnaient 1,2 million d'euros pour un festival d'une énorme importance pour seulement 42 000 habitants. Comme quoi il y avait une distorsion. Alors on peut pas leur dire non, c'est vrai, c'est honnête. Après, de plus grandes municipalités pourraient l'organiser. Alors moi ça me fait rire parce qu'on entend parler de Paris.
Ouais, il y a pas plutôt
encore un truc dire, qui
un espèce de plan qui est dessiné justement quoi,
non.
À utiliser la notoriété du festival pour essayer de délocaliser.
Alors justement, on parle plus du festival d'Angoulême que du festival international de la bande dessinée en France.
Peut-être qu'à l'étranger, c'est l'inverse.
Non, tout le monde parle d'Angoulême. Tu prends Il Fumetti, le canard italien là, le gros truc, où tu prends les magazines spécialisés, ils parlent bien du in Angoulême at the Festival of Angoulême in France. C'est un peu comme si on délocalisait Cannes ailleurs, parce que Cannes n'a pas la capacité hôtelière. Faut arrêter de fumer. La capacité hôtelière à Paris l'ont peut-être, mais les hôtels coûtent horriblement cher.
Oui, ça fera juste un 60e festival de plus à Paris.
Voilà, et sur lequel tout le monde n'a strictement rien à faire. Il y a le musée de la bande dessinée qui est à Angoulême, qui a la délégation de la Bibliothèque nationale de France pour le dépôt légal des bandes dessinées. Les bandes dessinées ne se déposent plus maintenant à la Bibliothèque François Mitterrand, mais à Angoulême. Quand même plus simple, surtout que c'est une équipe qui est spécialisée. Il y a toute l'industrie qui est autour, c'est-à-dire l'industrie du dessin animé, les écoles de formation, les industries du jeu vidéo qui commencent à s'y installer. Moi, je vois mal relocaliser tout ce beau monde à Paris. Un musée, une bibliothèque, une école et tout le reste, le remettre là-bas, moi, ça me fait. Comment dire ? Ça me fait doucement rigoler, quoi. C'est un investissement que la mairie aura du mal à justifier s'ils perdent Angoulême. Donc point barre. Donc Angoulême restera Angoulême, ça c'est une certitude, parce que c'est un peu tard maintenant pour le relocaliser. Le festival d'Angoulême à Lyon ou à Bordeaux, ça ferait rire, quoi, je pense. Je pense que tout le monde a une idée assez établie. Je veux dire, ils vont pas aller dans le ridicule. Après, ils peuvent très bien se saborder. Comme ça a été le cas pour le festival de Lucca, comme ça a été le cas en Suisse pour. J'ai oublié le nom. Mais je pense que c'est une trop grosse machine maintenant pour être sabotée. Voilà. Et puis ensuite, il y a le plaisir à Angoulême. Tous les commerçants sont à fond dans le festival, honnêtement. Pour ceux qui n'y sont pas allés, c'est.
Vous réécouterez nos anciennes émissions, puisqu'on en parle à chaque fois.
C'est impressionnant, c'est-à-dire que même un vendeur de sous-vêtements va faire une séance de dédicace avec Arthur Dupin ou ce genre de choses.
Comment tu dis ?
Arthur Dupin, non, c'est
Dupin.
Dupin, voilà, je le savais. Je savais que je me plantais quelque part. Bref, à mon sens, non, ça m'étonnerait franchement qu'un jour le festival soit déplacé. Je pense que tout simplement, c'est ils ont voulu sortir en place publique les négociations qu'il y a entre la mairie et l'association. C'est pas forcément quelque chose de très fin. Mais d'un autre côté, c'est de la politique, donc c'est de la vie publique. Sens direct, en grec ancien, etc. Enfin voilà. Tout ça pour dire que ce soir, c'est les trois derniers épisodes du livre 6 de Kaamelott.
Voilà. Et sinon, on reste dans la BD ? Autre chose ?
Oui, autre chose. Mais il faut que je change les fonds sonores.
Ah, d'accord.
We'll be right back.
L'autre actu cette semaine, qui était peut-être nettement plus importante et qui a nettement fait plus de bruit, et pourtant non, ils ont pratiquement pas fait de bruit par rapport à l'événement que ça aurait pu être, c'est les 50 ans d'Astérix.
Je pense que tout le monde a été échaudé par le précédent épisode où c'était vraiment lamentable. Après ça va.
Je me pose sincèrement la question parce que honnêtement, bon, on revient en arrière. En 1958, RTL finance, enfin Radio Luxembourg à l'époque, finance la création d'un hebdomadaire à destination des jeunes qui s'appelle Pilote. Où dedans, on a mis des journalistes, on a mis des auteurs de bandes dessinées, qu'on a récupéré certains à Spirou, par exemple Goscinny, d'autres aux éditions Paramundi, enfin un peu partout. On a regroupé ces gens, on a fait 3 numéros 0, allez, on va le lancer. Dedans, une grande série dessinée par Uderzo.
Ou papa? Non, Astérix.
Non. Non, entre Astérix. Les deux.
Dessiné par Uderzo. Ah.
Allez, je t'aide. Il y a eu un grand hommage. Voilà, les chevaliers du ciel. Et Astérix est arrivé bien après. Astérix est arrivé le 28 octobre 59. Un an après, le journal n'arrive pas à s'en sortir et racheté par Dargo, qui à l'époque éditait ce qu'éditait Dupuis en France. Et ce qu'éditait Le Lombard, pardon, en France, j'ai dit une énorme bêtise. C'est-à-dire, il distribuait Tintin, la revue et les albums cartoonés de Tintin, ainsi que tous les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a l'idée de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'a été lancé Astérix. Au tout début, 5000 exemplaires mis en vente pour le premier album, c'est-à-dire Astérix le Gaulois, et ça a marché. Et ça a littéralement cartonné, c'est-à-dire qu'à la fin de la décennie des années 60, on en est à pratiquement 150 000, 200 000 exemplaires à la nouveauté. C'est immense! C'est absolument immense. C'est une saga monstrueuse où De Gaulle, Uderzo qui racontait ça cette semaine. De Gaulle a fait une réunion ministérielle où il a appelé tous ses ministres avec les noms des
habitants des villageois, et il a même pas eu besoin de dire qui est qui, tout le monde se reconnaissait. c'est Uderzo qui raconte ça.
C'est Uderzo qui raconte ça. Bref, c'est devenu un truc immense. 77, immense perte pour la bande dessinée. René Goscinny meurt. La petite histoire, il meurt d'une crise cardiaque dans un test d'effort cardiaque. C'est vraiment de l'humour noir jusqu'au bout. Uderzo est peiné, chagriné, sort un bouquin. Il y a Astérix chez les Belges, qui est encore sur un scénario de Goscinny, sur lequel on voit...
Il est mort pendant l'élaboration de l'album.
Pendant le dessin, et le jour où il est dessiné, Uderzo a juste la force de dessiner Idéfix qui pleure dans un coin.
Il met un petit lapin qui pleure aussi dans le banquet. C'est le petit lapin, c'était le surnom que donnait Goscinny à sa femme.
Bref, de ce côté-là, après, c'est un album supplémentaire, Le Grand Fossé, qui est encore d'une bonne qualité. Et après, au fur et à mesure, ça commence à chuter. Bon, il y a quelques-uns. Astérix chez Razad, qui est pas trop mauvais, qui est plutôt bien même.
Chez Razad. Dis-le.
Oui, Astérix chez Razad, qui est plutôt correct et qui est plutôt, je veux dire, agréable à lire, mais après ça commence à chuter.
Il y a des étincelles quand même de bon niveau après. Hein. Et, comme tu disais, chez Razad, c'est vachement bien. T'as le fils d'Astérix, il y a pas mal d'éléments quand même qui. Ben même, y a, enfin, y a, même le. Pas la Traviata, mais le Rose et le Glaive, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées aussi dedans. Après, c'est vrai que la Galère d'Obélix est complètement à chier. Puis on parle pas du dernier.
La guerre des roses et tout le reste, où là on est tombé, mais vraiment pas loin de bas. Et là, ils sortent pour les 50 ans un album. Un album, l'anniversaire d'Astérix et Obélix, où on a repris des petites histoires, on a redessiné. Il y a un journaliste qui finalement a vendu la mèche que, en fait, Uderzo a 8 assistants, qu'il a 3-4 dessinateurs derrière. Pour l'aider à travailler.
Qui vient d'ailleurs officiellement d'adouber pour continuer la série. Hein.
Voilà. Sachant que Uderzo disait encore l'an dernier, après moi, Astérix, il n'y en aura plus.
Et qu'il fustigeait le comportement de certains dessinateurs qui autorisaient justement les éditeurs à continuer les aventures à la mort du dessinateur. Il ne supportait pas ça jusqu'à un revirement.
Revirement surprise. Et c'est l'histoire d'un nom à un générique qui a fait sauter ça. Et ça s'est retrouvé, Uderzo a renié son gendre et surtout sa fille. Sylvie Uderzo, écoute, tu es gentil, tu prends tes clics, tes flacs, t'es viré de la société, Et on estime-toi heureux, ce que je te désirite pas. Alors, c'est une guerre de communiqués, et on apprend juste après quoi que Hachette rachète Albert René Édition, la structure éditoriale par laquelle Astérix continue à vivre. Et c'est là où on se dit, ah bah oui, c'est ça le truc. C'est que, bon, Uderzo a en double toutes les Ferrari. On sait que donc il a un Mirage dans son jardin, que... Mais d'un autre côté, ben, pour que la mariée soit belle, il fallait continuer la série après sa mort. Le meilleur moyen, c'est « Ah bah voilà, j'ai une équipe derrière, on va continuer !» Bon, allez, c'est un auteur, il a le droit de faire de son œuvre ce qu'il veut. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Ce qu'on peut lui reprocher, peut-être, c'est la qualité des albums. C'était ce qu'il fallait continuer. D'un autre côté, il y a les séries de dessins animés qui ont plutôt bien marché. Astérix se vend aussi bien en Allemagne qu'en France. Les dessins animés marchent très très bien en Allemagne, un petit peu moins en France. Étonnamment, en France, on est plus sur les films live. Et des films live, il y en a eu 5 jusqu'ici.
5.
5. Et qui dit 5 dit top. Et qui dit top dit...
Top 5. Le top 5. Numéro 5.
Alors, cinquième de cette collection, ben Astérix numéro 3 aux Jeux Olympiques, un film de Frédéric Forestier et Thomas Langman, avec Clovis Cornillac dans le rôle titre d'Astérix. C'est une erreur de franchise. Avoir voulu mélanger Astérix et les Jeux Olympiques sans avoir le droit de se moquer des Jeux Olympiques, eh ben, forcément, ça a un petit peu tombé à l'eau, et même franchement à l'eau.
Numéro 4.
Les Bronzés numéro 3, Amis pour la vie, un film de Patrice Lecomte. Le village gaulois passe ses vacances en Gaule cisalpine sur la côte Bargagia, c'est-à-dire la Sardaigne. Tout le monde se tape sur la tête dans une de leurs homériques bagarres, mais qui dure pas loin de 2 heures de métrage pelliculaire. C'est réalisé par l'équipe qui a été évincée d'Astérix 3. C'est pour ça qu'il se retrouve dans ce classement. C'est-à-dire que, en fait, toute la troupe du Splendide était prévue pour faire le Astérix 3, mais Uderzo leur a dit « Non, finalement, ce que vous allez faire ne m'intéresse pas. » Et là, ça a été la douche froide. Ils sont vengés en faisant les Bronzés 3.
Numéro 3.
Astérix, premier du nom, Astérix contre César, de Claude Zidi. Meilleure interprétation de AG Canonix par Sim.
Eh oui.
Voilà. Et c'est là que l'on sait qu'on ne pourra pas faire mieux, peut-être. Avec une reconstitution étonnante de réussite du village gaulois. Mais un super loupé sur ce qui est de la super super pension magique, coupant toute idée de suite. On pouvait pas faire plus nul finalement comme interprétation de Panoramix, comme personnage raccroché.
Je vois pas trop ce qui est réussi dans ce film d'ailleurs. Enfin non, bref.
Le village, le décor.
Non, même pas, puisque les Romains sont rouges.
Non, je te parle du village lui-même.
Ah, le village.
La reconstitution dans le plus grand studio d'Europe, indoor.
Ouais, super.
Voilà. C'est dit.
Numéro 2.
Vercingétorix, le film de Jacques Dorfman.
Ouais.
Seul Astérix avec Christophe Lambert au casting. Avec une reconstitution étonnante de réussite du village gaulois, mais un superbe loupé pour ce qui est... Non, je me trompe de ligne. Une version hardcore d'Astérix sur l'histoire d'Alésia qui a toujours hanté la bande dessinée, dont il est tout le temps fait question et pas que dans le bouclier à Averne. Et la fameuse scène où Vercingétorix jette les armes aux pieds de César. Mais cette fois-ci, peut-être un loupé, point de vue humour. Quoique si, faire jouer à un grand singe le rôle de Vercingétorix, on sait qu'il était velu, mais quand même. Il était aussi général de Dux Belli, quand même, Vercingétorix, avant de redevenir gaulois.
Numéro 1.
Et la meilleure adaptation au cinéma live d'Astérix, ça reste... Astérix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Le meilleur tout simplement parce qu'il a su garder à la fois l'esprit de Goscinny et renouveler l'humour de Goscinny. Et il est aussi appelé dans les milieux spécialisés nulle part ailleurs le film. Malheureusement, Philippe Gildas était coincé à ce moment-là. Il n'a pas pu apparaître dans le rôle de AG Canonix. Non, je voulais dire du chef du village.
Abraconcis,
oui. Classement totalement, oui, je t'en prie, du sport, c'est un classement que c'est fait uniquement de manière subjective par moi-même.
Non, mais c'est un peu logique aussi parce que il faut dire que le bouquin Astérix et Cléopâtre, qui est sorti, je crois, en 67 ou en 68, a été le premier à battre vraiment des super records en tant que vente d'album, parce que vraiment c'est un album qui était vraiment très réussi.
Bah, c'est vrai que le précédent Astérix le Gaulois et la Serpe d'Or était plutôt moyen, ou Astérix chez Lego, et là
Lego, il est énorme. Mais Chaba disait pourquoi il avait choisi cet album en particulier.
À cause de la couverture.
Peut-être, mais il a surtout dit qu'il voulait absolument les pirates dans son film, et il fallait absolument que donc l'aventure d'Astérix se passe, comme il y a un album sur trois sur les pirates, il fallait trouver un album où il y a des pirates dedans. Et c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir Astérix et Cléopâtre parmi les choix, c'est vrai que c'est dur de pas choisir ça quand même.
Ouais, ouais.
Enfin bref, oui, donc si vous voulez savoir, l'album de Astérix chez Cléopâtre, il y a une frise monumentale, un album qui a demandé une quantité phénoménale
de Chine et
bière, café, papier, gomme, enfin bon, c'était un gros gag de Goscinny, et finalement, ben, c'est peut-être le plus réussi. Peut-être qu'il y aura un Astérix 4 qui sera pas loupé. Peut-être. Le jour où, on n'en sait rien. Mais bon, ça reste à voir. En tout cas, on aurait aimé essayer de joindre justement Alain Chabat là-dessus, et on n'a pas réussi à l'avoir à temps. Dommage. Et on vous renvoie sur l'affaire Astérix. Vous tapez Astérix dans actuabd.com, dans le moteur de recherche d'ActuaBD. Astérix, et là vous allez, mais c'est une saga. C'est une saga familiale. C'est un drama brésilien. Je ne sais que dire. Un peu long pour les news, je suis désolé, mais comme du sport à un mois de sport à rattraper, d'actualité sportive à rattraper, on va faire court dans les sorties BD. Et on va commencer avec Pierre Drul, Welcome to America, qui est sorti aux éditions Ego Comics, label indépendant spécialisé, comme son nom l'indique, dans les biographies et les autobios, avec notamment le célébrissime journal. Pierre Drul est le dessinateur pilier des requins marteaux. C'est lui qui a créé le personnage de Monsieur Pabot. Et c'est donc dans une maison d'édition. Excusez-moi. Dans la maison d'édition angoumoisine Ego Comics, qui sort un album qui est plus axé sur lui-même. Alors, si vous êtes fan de requins marteaux, vous savez déjà qu'il y a une énorme production à côté de la revue Ferraille, avec des histoires plus intimistes, plus quotidiennes que Pinocchio. Mais ou encore la fabuleuse histoire de Monsieur Ferraille. Bref, là, il se trouve que ça sort chez Ego Comics. Mais on va revenir en arrière. Il y a 10 ans, en 99, Pierre Drul vivote de son métier de dessinateur et oscille entre différents petits boulots. Il est vendeur de chouchous sur les plages d'Oléron. Il est homme à tout faire à la Fanzinothèque de Poitiers. Il est invité par son frère à le rejoindre un mois et demi à Philadelphie, à la fois pour les vacances et à la fois pour qu'il puisse voir sa famille de ce côté-là. Philadelphie, c'est une ville provinciale de la côte est des États-Unis, ville où il ne se passe pas grand-chose. Ça tombe bien, Pierre a beaucoup de boulot d'illustration à faire. Et lui, plutôt que de jouer aux touristes, courir après les monuments et les musées, il préfère déambuler dans la rue. Et comme il ne parle pas vraiment anglais, il va devoir se débrouiller pour comprendre ce qu'on lui dit, et ça donne ce gimmick assez rigolo que tous ceux qui parlent anglais font des coins-coins dans les cases. L'album est intéressant, mais par son traitement graphique. L'histoire n'est pas extraordinaire, puisque ce n'est qu'un journal personnel, hein. Il raconte ses souvenirs de voyage. Pas de suspense, pas de rebondissement, ce n'est qu'un moment particulier d'une vie quotidienne. Mais c'est intéressant de voir les États-Unis par les yeux de Pierre Drul, en dehors de toute considération politique, économique, plutôt sur la culture d'une ville moyenne. En fait, la plupart de ses rencontres se font dans les bars, les magasins de photocopie et à la poste. Et graphiquement, Pierre Drul semble avoir copié sans trop le vouloir Robert Crumb. Robert Crumb, qui est dessinateur underground, né à Philadelphie. Et sans plus. Après, si vous voulez voir de plus près ses dessins, il y a une exposition autour de cet album à Decazeville, c'est dans l'Aveyron. à la galerie Jean Segala, où l'auteur sera présent jeudi. Expo ouverte hier, qui sera jusqu'au 14 novembre. Et ça tombe bien parce que De Casseville, c'est la ville de naissance de Pierre Drul. Welcome to America chez Ego Comics. Quoi, la pub ? Je l'en... La pub. Voilà, la pause pub donc est lancée. Du sport est allé avec son petit train faire tchou 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 tchou. Chercher le petit café. Il a quand même mis en route juste avant l'émission, quoi. Là, il doit être bien chaud. Tout à fait autre chose. Cette fois-ci, on va parler de manga et de shoujo avec l'œuvre de Fumi Yoshinaga, Le Pavillon des Hommes. 2 tomes sont déjà sortis dans la collection Big Kana. Et je vais vous expliquer d'abord quel est le principe de cet album. Le principe de cet album, c'est une uchronie. Alors une uchronie, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on prend un événement historique et qu'on en change légèrement l'issue. Cela peut être un événement important ou un événement que l'on crée de toutes pièces. L'uchronie, c'est le mélange subtil de l'histoire en costume se déroulant à une certaine époque de l'histoire passée et de la fantaisie. Par exemple, l'armée de la résistance supposait que le Japon avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, ou dans Ministère de l'Espace, que l'Angleterre s'était lancée très tôt et très vite dans la course à l'espace et avait atteint la Lune dès 1958. Et surtout, ne s'y était pas arrêté. Fumi Yoshinaga parle, lui, d'une maladie fictive. La variole du Tengu, qui tuerait principalement les hommes jeunes et fait que la population féminine se retrouverait 4 fois plus importante que celle des hommes. Or, si le Japon du XVIIe siècle était touché par une telle épidémie, que se serait-il passé ? Les hommes seraient devenus des biens précieux qu'on vendrait, qu'on chouchouterait ou que l'on cloîtrait. C'est aussi le début de l'ère d'Edo, celui du renfermement du Japon sur lui-même et le règne du shogun qui, de sa capitale Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, impose sa volonté même sur l'empereur, qui lui est resté à Osaka. À Kyoto, pardon. C'est distant de 20 km, excusez-moi. Et la famille du shogun est suffisamment riche et puissante pour se permettre des extravagances, alors que le Japon est dans une période économique difficile. Par exemple, transformer le pavillon des femmes du château d'Edo, l'Ohoku, sorte de harem, en pavillon des hommes, un élevage de courtisans pour le plaisir de la shogun, avec un millier de mâles qui n'ont pas le droit de voir d'autres femmes à l'exception de sa seigneurie. Vous imaginez qu'il s'en passe des choses dans cet androssé. Des jalousies, des complots, des relations tendues et d'autres plus... Ah pardon, il est encore tôt. Bref, le tout dans un univers au rite extrêmement codifié, hiérarchisé et bien viril. Le tout sous le sceau du secret, il en va de la réputation du shogunat. Alors chaque tome se raccroche en fait à un personnage particulier. Le premier voit le fils d'un fille d'une famille noble, modeste, s'engager dans le pavillon des hommes et qui connaîtra une carrière fulgurante dans le pavillon. Le deuxième tome, l'histoire d'un moine envoyé par l'empereur que la shogun va obliger à renoncer à ses vœux pour qu'il soit dans le pavillon des hommes. Honnêtement, personnellement, c'est l'un des shoujo manga, c'est-à-dire shoujo, je rappelle, ça veut dire que c'est destiné à un public principalement féminin, avec la pointe yaoi, c'est-à-dire des histoires d'amour homosexuel entre hommes. Oui, les femmes aiment ça.
Hein, avec des belles trames grises et des dégradés.
Enfin bon, il y a une pointe yaoi qui est absolument assumée, et pour moi, c'est le shoujo le plus intéressant. Non, ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle, etc. Non, rien. D'aller pas vous faire des idées, oui, avec ma bite et mon cul. C'est franchement l'histoire la plus intéressante que j'ai lue depuis un an. C'est bien écrit, il y a des intrigues politiques, Il reste tout à fait accessible à un public occidental qui n'a que des notions, je vais dire, hein, de civilisation japonaise. En fait, c'est exactement le genre de bouquin qui donne envie de se plonger dans les histoires, dans les livres d'histoire et de civilisation pour en apprendre plus. Ça rend très bien. C'est extrêmement bien dessiné. Il y a des intrigues qui sont bien fichues. Et c'est plutôt bien amené. Le Pavillon des Hommes de Fumi Yoshinaga, tome 1 et 2, c'est sorti dans la collection Bikana Shikana. Très rapidement, Yoshinaga a commencé en tant que dessinatrice, de fanzine parodique Yaroi. Elle a commencé par une parodie de Slam Dunk, qui est un manga de basket où en fait tous ces grands garçons
passent beaucoup de temps sous la douche
et tirent des paniers à deux points, hein,
oui,
à deux points, boules, pardon. Oui, c'est un peu difficile. Et Yoshinaga, il se trouve qu'en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'est l'un des grands samouraïs du Japon médiéval, l'un des derniers, je vais dire, samouraï avant l'établissement de l'ère d'Edo, pas la restauration Meiji, hein, on parle bien de l'ère d'Edo. Bref, c'est assez amusant. Le Pavillon des Hommes, tome 1 et 2 dans la collection Bikana Shikana, c'est graphiquement, c'est très beau. En tout cas, il n'y a pas à tortiller du cul, voilà.
Dit comme ça, hein.
Ouais, pour rien dire.
Non, c'est, on peut insister.
Bon, moi ça me rappelle ce que tu dis. Alors c'est différent bien sûr, mais si vous aimez ce genre de d'histoire un peu yaoi entre mecs en kimono avec des sabres et qui sont des samouraïs. Alors ça c'est pas vraiment des samouraïs, mais c'est un peu la même ambiance. Il y a l'excellent Tabou de Nagisa Oshima avec Kitano dedans et Tadanobu Asano aussi qui était pas mal, qui avait été présenté à Cannes d'ailleurs, qui avait pas eu de prix, mais c'est Goato en VO et donc qui est sorti il y a quelques années, qui est vraiment pas mal aussi, avec des contacts virils.
Je suis en train de caler le disque suivant qui est extrait de la bande originale de Scream 2, John Spencer Blues Explosion, Right Place Wrong Time, puisque après tout on est une spéciale Halloween. Et là je suis en train de réfléchir, ce soir le dernier épisode.
Oui, c'est après le truc qui se passe à la fin de la saison 5, si vous l'avez pas encore vu dans Kaamelott. C'est ça que tu disais ou non?
Et c'est là que je viens de tilter que c'est pour ça qu'ils ont accéléré la diffusion. Pour correspondre à la date.
Ah, peut-être.
Si c'est ça, c'est très bien vu de la part d'M6, et pour une fois, il n'y a pas à râler. Allez, on verra ça ce soir, tout à l'heure. Avec du fromage. Radio FMR Supplément Week-end 213.
Right.
Spencer Blues Explosion, right place, wrong time.
Le top.
Merde, c'est pas le bon, ça m'apprendra, voilà, je suis désolé. Ami public adoré, voilà, nous sommes en direct, il n'y a pas de filet, et le réalisateur, c'est aussi le mec qui fait les chroniques. Alors quand il gère 14 choses à la fois...
Si vous avez la vidéo, le réalisateur, c'est celui qui est dans les mailles du filet là, qui essaie de se dépatouiller.
Voilà, et en même temps, il a le portable qui lui dit « j'ai plus de batterie !»
Non, c'est pas encore hein, le jingle.
Ah.
Non, je te rappelle qu'il y a un top 5 avant, mais bon.
Ah merde, je l'avais prêt en plus.
Oui, en fait c'est juste toi qui m'as demandé de faire un top 5, hein. En même temps si tu le veux plus.
D'accord, on y va.
Non mais avant...
T'y arriveras pas.
Avant il faut quand même dire de quoi il s'agit. Bon, faut tout lui apprendre. Bon alors, c'est la spéciale Halloween, donc à l'occasion d'une certaine actualité cinéma, nous avons décidé de souligner cette manifestation halloweenesque par un top 5 des films qui font peur. À tous les stades, hein, bien sûr. Sachant que le numéro 1, Xavier a demandé expressément que ce soit ce film-là, donc j'ai composé les 4 autres. Voilà. Alors voilà, maintenant tu peux lancer le jingle.
Devant le bouffe-tout, oui.
Le top 5. Numéro 5.
Alors en numéro 5 des films qui font peur, je voudrais Cinéman. Avec l'acteur le moins charismatique du monde, Franck Dubosc, qui rend hommage au cinéma, qui se met dans la peau de certains héros de cinéma. Le truc rigolo, c'est que donc c'est réalisé par Yann Moix, qui avait fait Podium avec Poulvord. Il faut savoir que Poulvord et Dujardin ont refusé le rôle. Bien leur en a pris.
C'était pas bête.
Numéro 4.
Alors numéro 4, cette fois-ci, c'est un film qui nous fait peur à nous deux, Xavier et moi, parce qu'à chaque fois, la chronique est paralysée par les fous rires. Il s'agit du chat qui vient de l'espace de Norman Tokar. Et oui, ça fait peur.
Ah, fallait la sortir, celle-là. Non, mais pourquoi Tokar, d'ailleurs? Est-ce que c'est un pseudo? Est-ce que c'est son nom? Est-ce que...
Non, ça a l'air d'être son vrai nom.
Oui, c'est T-O-K-A-R. Toker.
Je tiens à signaler que c'est un gimmick qui est remonté assez loin, puisqu'il y en a qui, y a des invités qui s'en souviennent quand même de ce gag. Hein. On te le dit pas du sport, mais il y a des discussions hein, qu'on a au téléphone. Et c'est quand qu'il repasse le chat venu de l'espace.
En ce moment, il y en a pas. Quoi.
Numéro 3.
Alors, numéro 3, un film qui fait trop peur, c'est Starship Trooper de Paul Verhoeven.
Oui, mais il est bien.
Jean Blaguin, humoriste. Trooper, voilà.
Numéro 2.
Alors numéro 2, c'est un film qui fait très très peur parce que on sait que chaque fois qu'on le voit, on se vide de 50% de notre masse corporelle en larmes et en pleurs, puisqu'il s'agit du Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata. J'ai tellement peur que je ne le reverrai jamais plus de ma vie. Et tous ceux qui l'ont vu ne le reverront plus jamais de leur vie. Donc c'est un film qui fait peur.
Chantal a fait un pari idiot. Quel film de Miyazaki j'ai pas vu de ta DVD Tech? Celui-là.
C'est pas Miyazaki, c'est
Oui, Takahata, mais du studio Ghibli quoi. Je dis celui-là. Ah ok, non parce qu'il y avait une chronique hier sur nos lives de Petit Panda réalisé par Takahata et Miyazaki, mais c'était en 70-71.
Voilà, il faut que tu dises à Chantal de bien s'hydrater avant.
Oui.
Numéro 1.
Et le film qui fait le plus peur est...
C'est notre zombie à la mine ravagée préférée. Le retour, il est exhumé pour un film à durée déterminée, c'est... This Is It de Kenny Ortega avec Michael Jackson.
Yeah.
Là, avec un score monstrueux, le meilleur score d'Halloween, avec quand même des projections où les fans arrivent costumés et tout ça. Quand même, c'est aussi fort pratiquement que le Rocky Horror Picture Show.
Oui, tout à fait, mais ouais. Ce serait pas étonnant que le film continue d'être passé dans des petites salles jusqu'à des années.
Oui, parce que moi je ne fais pas le pari du ah mais non, premier juré, on ne le diffusera que tant de temps. Mais oui, mais bien sûr. Classement qui a été fait arbitrairement par Thomas.
En quatrième vitesse ce matin.
Voilà, entre deux dessins animés sur France 3 pendant la post-pub. Oui, il y a encore la pub sur le service public pour ceux qui nous écoutent à l'étranger. Ah, il a fallu changer de PC.
Andy Lowe, John Woo, Gordon Chan, Choi Yun Fat.
Alors, juste parce qu'on nous l'a demandé et qu'on nous le repose la question de temps à autre.
Beaucoup de fans de ce jingle.
Voilà, c'est une bande de cinéastes amateurs qui s'appelle Kung Fu, K-U-N-G-F-O-U. .com. Donc vous allez sur kungfu.com, qui avait fait ce jingle pour annoncer une de leurs productions en 2001-2002 et ils l'ont retiré et
ce n'est plus disponible.
Il y a le long métrage à la place qui s'appelle Duel to the Death, D-E-A-F, qui est pas mal aussi, dans lequel on réentend juste ce fond sonore. Donc voilà, donc je suis bien content d'avoir récupéré la vidéo et si jamais ils nous écoutent par hasard, je suis désolé. Merci. On est désolé de vous l'avoir emprunté, mais on l'adore. Voilà, c'est la meilleure des pubs. Thomas, c'est du DVD.
Voilà, parce que dans l'actualité, il n'y a pas que Halloween. Il y a aussi du sport. On avait parlé la semaine dernière, puisque c'était la fin de Prison Break. Et donc, nous allons aborder l'univers des prisons aujourd'hui avec le diptyque.
Woman in Cages. Ah non, j'ai toujours le DVD chez moi.
Non, c'est moi qui l'ai. donc il s'agit du diptyque de Ringo Lam réalisé fin des années 80, début des années 90, qui s'appelle Prison on Fire 1 et 2. Et donc ce sont deux films réalisés par Ringo Lam avec Choi Yun Fat, Tony Leung Carfai, donc c'est le Tony Leung de l'amant, hein, pas celui de In the Mood for Love. Et c'est édité chez HK Vidéo. Alors qui dit HK Vidéo, vous êtes habitué maintenant, vous savez que je n'amène pas les coffrets DVD ici, puisqu'ils sont magnifiques, cartonnés, brillants, avec vernis sélectif et tout. Donc, et comme je sais que j'ai quelques DVD en circulation, j'attendrai comme Randley et Swordsman.
Tout à fait.
Voilà.
D'accord.
Alors, Prison on Fire 1 qui a été réalisé en 1987, donc raconte l'histoire de Yu.
Je peux raconter des conneries, j'ai pas internet là aujourd'hui.
D'accord. Donc c'est Yu, incarné par Tony Leung, qui est créatif dans la pub, mais il est condamné à 3 ans de prison pour homicide involontaire, puisqu'il a un peu poussé sous les roues d'une voiture un gars qui avait tabassé son père, qui tenait une petite échoppe, donc qui était en état de légitime défense aussi. Mais il est trop tendre pour le monde carcéral, t'imagines un créatif de pub. Mais
c'est pas Mad Men, hein.
Mais il est pris sous l'aile de Ching, donc Chun Fat, un détenu décontracté et blagueur. Mais le jour où Yu cafte sur l'un des chefs des groupes de prisonniers, celui-ci se le prend en grippe et jure de lui faire payer. Alors, servant de bouc émissaire avec la complicité du matin en chef, Yu va devoir faire le dos rond. Donc évidemment, vous imaginez les trahisons, les associations, les coups fourrés dans les douches, etc.
Tu m'excuses, mais tu es en train de me repiquer la chronique du pavillon des hommes, là.
Ah, c'est pas faux.
Non, tu verras.
Alors ensuite, Prison on Fire 2, qui a été réalisé 4 ans plus tard, en 91. Donc Yu est sorti de la prison, Ching y est toujours par contre. Et après avoir fait virer le précédent chef de la sécurité, Ching est dans le collimateur de son successeur, le terrible Zhao, qui... Alors en VF, il l'appelle Zhao Dark Vador. Alors en cantonais, ça doit être autre chose, je pense. Qui en fait, son souffre-douleur en fait de Ching. À l'extérieur, la mère de Ching est décédée et son fils est placé dans un orphelinat. Et Ching n'a d'autre choix que de s'évader pour parler à son fils qui file un mauvais coton, qui éprouve des difficultés à s'adapter. Alors dans sa cavale, Ching va se lier d'amitié avec Long, un autre évadé qui fait partie de la caste des Chinois continentaux par opposition aux Hongkongais. Et donc il va y avoir une lutte à l'intérieur de la prison. Alors, il faut savoir que Ringo Lam s'est fait connaître d'abord pour avoir réalisé City on Fire, 1987 qui a inspiré Tarantino sans Reservoir Dogs, dont la dernière partie de City on Fire est développée pendant la totalité du métrage de Tarantino, qui est un flic infiltré auprès des malfaiteurs qui a tenté de déjouer un casse donc qui tourne mal, et donc dans le film de Tarantino Reservoir Dogs, ce sont les malfrats qui essaient de déterminer qui est le traître. Ringo Lam donc a réalisé City on Fire la même année que Prison on Fire. Il a ensuite réalisé School on Fire l'année d'après, pour finir avec Prison on Fire 2 en 91. Et c'est on va dire une tétralogie sur
titres en fire.
Voilà, déliquescence de certaines catégories de gens avec l'aliénation d'individus, etc. Il a aussi réalisé d'autres films, donc les plus récents, ce sont avec Jean-Claude Van Damme, lui qui a fait Risque Maximum, Répliquant, In Hell. Et il a aussi réalisé Le Temple du Lotus Rouge, qui est un film de commande en costume. Il avait fait Twin Dragons, qui était co-réalisé avec d'autres gars comme Tsui Hark, avec Jackie Chan. Bon, le bonhomme, il a fait pas mal de trucs. Il a fait aussi Full Contact, qui n'est pas du tout la même chose que celui avec Van Damme, où tu vois Chow Yun-fat qui a une coiffure en brosse avec un Tony Wong complètement halluciné. Je pense que ça te plairait du sport, il faudra que je le retrouve, parce qu'il faut que je le revoie avant. Et donc Ringo Lam, on va dire qu'il est assez coté parmi la caste des fans hardcore de cinéma hongkongais, mais c'est quand même un peu le moins connu, parce que c'est quand même un réalisateur de films urbains, beaucoup moins connu évidemment que ses compères John Woo, Kirk Wong et consorts. Alors là, dans les deux Prison Fire, on est beaucoup plus proche de Oz, bien sûr, que de Prison Break. En moins sauvage et violent, moins sexuel, quoique, mais aussi puissant et plus optimiste et chaleureux surtout, puisque c'est dû en partie au charisme et la bonhomie de Chow Yun-fat, qui désamorce un petit peu le côté violent des prisons. Et puis bon, il y a quand même quelques séquences où tu te prends à espérer, parce que l'univers carcéral quand même fait d'amitié, plus chaleureux, alors que Oz, tu sais
et
que...
Et de savonnette.
Voilà, bon, il n'y a pas trop de savonnette, mais c'est presque... Bon, après,
je te prêterai ma cuillère, tu pourras creuser ton trou.
Voilà. Alors que dans Oz, tu sais très bien que chaque fois qu'il y a une ouverture, une éclaircie, tu sais que c'est bam, il va se prendre un truc dans la gueule, le plan d'après. Le premier film, donc c'est une amitié vachement forte entre Yu et Ching, puisque l'un est pris sous l'aile de l'autre. Bon, le pic est atteint lors du réveillon du nouvel an, où tout le monde danse au ralenti, ils sont super contents, ils font des offrandes en mettant des trois clopes dans une orange pour dire oui, il faut que l'année soit super bien et tout. Alors ils pensent à leur femme, à leur fils qui sont à l'extérieur de la prison. Le deuxième film, c'est plutôt sous le signe de la cavale, puisque Chow Yun-fat s'évade. C'est une chasse à l'homme, rapport entre la proie et son prédateur, puisque le maton en chef est décidément deux fois pire que celui du 1, qui était vraiment pas tendre. Là, cette fois, c'est une ordure finie. Il a décidé, Chow Yun-fat, c'était son souffre-douleur, donc il va s'acharner sur lui. Il va même le livrer après une espèce de...
J'ai vu tous les épisodes du Fugitif.
Voilà, je sais, tu pourras pas t'évader. Et dans le film, Chow Yun-fat réussit l'exploit de s'évader deux fois. Et voilà, donc c'est...
Ah merde.
Oui, donc c'est pas bon, c'est voilà, on est pas au pays des bisounours. Quand on est un peu connaisseur du cinéma hongkongais, on sait que quand il y a un méchant qui fait de l'acharnement sur quelqu'un, tu sais que ça va être du costaud. Bon, après il y a quand même la frontière où le maton ne doit pas donner trop d'occasion aux prisonniers de faire des rapports sur lui, parce qu'il va être ensuite puni. Donc tu sens qu'on est toujours à la limite de la rupture. Tu sais que le gars il va astiquer les prisonniers dans le sens pas second degré, hein, bien sûr. Tu sais que le prisonnier il va défier l'autorité, mais il peut pas trop non plus, mais il sait quand même qu'il peut aller assez loin, parce que l'autre il peut pas trop le frapper non plus, sinon il va se prendre une plainte dans la gueule. Mais tu sens que sur certaines occasions le maton c'est pas un demeuré, il va toujours le livrer à une catégorie de groupuscule dans la prison qui va se faire une joie de lui expliquer les joies de la vie avec beaucoup de cocards et autres joyeusetés. Les films abordent plusieurs tons, donc on a l'innocence, la quiétude, avec ces fameuses séquences au ralenti où tout le monde est content, mais aussi l'homme se transformant en bête féroce à la frontière de la folie destructrice. Il y a quelques scènes où il pète le câble, c'est pas mal hein, au niveau sanguinolent, c'est pas ça tire pas en longueur, mais tu sens qu'il en faut pas beaucoup pour qu'il passe de l'autre côté. Aidé évidemment par la musique qui commence dans le générique avec une tendance plutôt jazzy. Alors c'est toujours énorme quand tu écoutes les chansons cantonaises, puisque c'est t'as une voix Tina Turner, mais c'est une hongkongaise, donc tu alors c'est... ouais
oui
voilà oui. Et après la musique devient plus synthétique et tu vois que la musique elle devient vachement barrée pour accompagner justement les pétages de câbles des prisonniers. Et là t'as vraiment des moments tu vois c'est du grand cinéma quand même. Au départ, il faut se faire un peu au surjeu à la cantonaise. Hein, si je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas habitué, c'est vrai que c'est quand même un film sur l'univers carcéral, donc c'est pas vraiment des comédies. Quand on voit le léger surjeu des acteurs cantonais, faut quand même, si t'es pas habitué, de se...
Non, mais si vous êtes habitué au surjeu des acteurs français, ça passe.
Oui. Voilà. Là, c'est vrai que presque la première rencontre entre Chun Fat et Tony Leung, c'est Chun Fat qui a une jambe dans le plâtre, il va chier aux toilettes alors que l'autre est en train d'incurer les chiottes à côté, et puis t'as Chun Fat qui fait des grosses grimaces parce qu'il essaie de pousser, ça vient pas, t'as des bruits de paix derrière, bon ça voilà, c'est du... La grosse comédie, même si c'est univers carcéral, t'as la comédie quand même. Bon, apparemment Ringolam a un problème avec justement le fait de déféquer, puisqu'il y a une scène similaire dans la nature, dans le 2, quand ils sont évadés avec un autre comédien, avec un autre prisonnier, puisque ils bouffent des fruits, il fallait pas, donc ils ont une putain de diarrhée, et donc à un moment donné, ils font des gros jets pour dire que ça pue, donc il faut qu'ils s'éloignent et tout. Bon, c'est du gros gars cantonais, comme on les aime, c'est génial. Voilà, donc si vous faites à ce jeu d'acteur, de toute façon, si vous serez pas dépaysé longtemps, il faut mettre un quart d'heure à peu près à s'y mettre, et puis après, voilà, on y est à fond. Quand les comédiens pètent un câble, tu vois qu'ils sont quand même capables de faire des beaux regards hallucinés comme il faut. Il y a les scènes de bastonnage, tu sens que les mecs ils sont prêts à payer de leur corps, hein, avec les arêtes des lits, des trucs comme ça. Il y a des grosses scènes avec des barbelés pendant les évasions, tu sens que c'est des vrais barbelés. Les grillages sont très hauts, les mecs font des chutes assez vertigineuses. Quand il s'évade sur une fade dans le 2, il saute dans une falaise, tu sens qu'il est vraiment dans les vagues assez hautes, et tu vois que c'est lui, puisque le plan est assez long. Il y a d'ailleurs un commentaire de Ringolam dans les bonus, où il dit qu'à un moment donné, sur une fade, il s'est un peu enlevé des vagues, parce qu'il sentait que ça a commencé à appuyer un peu pour lui. Voilà, faut le voir, hein. Tu dis, ah oui, d'accord, bon. Ça aurait mérité une cascadeur, tu vois que c'est pas un cascadeur. Bon, ok.
D'un autre côté, la plupart des acteurs hongkongais sont habitués à assurer eux-mêmes les cascades.
Quand c'est des acteurs qui sont, on va dire, qui ont bâti leur réputation sur les prouesses arts martiales. Quand c'est Chun Fat, c'est quand même l'un des acteurs renommés avec Andy Lau et d'autres, dont le mérite ne repose pas sur une carrière de star de la pop, et dont le mérite repose avant tout sur ses qualités d'acteur. Donc c'est vrai que pour des gars comme ça, c'est, même s'ils sont dans l'industrie hongkongaise, c'est pas des artistes martiaux à la base, donc bon, tu pleures quand même, hein, quand tu vois certains trucs qu'ils font. Voilà, bon, Prison Fire 1 et 2, c'est, pour moi, c'est deux excellents films sur l'univers carcéral. Pas, enfin, c'est un empreint de sauvagerie un petit peu. Il y a quand même pas mal de séquences chaleureuses, comme je disais. C'est quand même deux films à voir. Ringolam, on aime ou on déteste. Moi, j'ai des fois un peu de mal avec son univers, puisque c'est un peu toujours à la limite entre la catégorie 3, mais vu gosse, mais à fond, et une certaine retenue parfois où tu dis que le mec a des choses à dire.
Va falloir que tu expliques les catégories. Hein,
alors la catégorie 3, c'est ce sont des films hongkongais qui sont tellement violents et tellement culs qu'ils ne peuvent pas passer dans les cinémas. Il y a plusieurs catégories, donc la catégorie 3, ce sont les films ultra-violents où les barrières franchies sont très très loin de nos barrières à nous, on va dire.
D'accord, donc c'est en dehors de l'exploitation cinéma, donc en direct ou vidéo quasiment.
Et il me semble, oui. Bah, l'un des acteurs qu'on vénère avec du sport, c'est Anthony Wong, qui s'est fait une spécialité là-dedans. Voilà. Donc voilà, le cinéma de Ringolam, vous avez, j'en ai donné quelques références tout à l'heure, on a Full Contact, on a oublié un peu les films avec Van Damme, puisque c'est absolument pas représentatif de son style. Voilà, donc Prison Fire 1 et 2, ce diptyque est une très bonne entrée en matière, avec ce coffret HK vidéo, où il y a des assez avares en bonus, hein. Il y a les bonus des interviews de Ringolam en voix off, mais quand même qui renseignent un petit peu sur les à côté de la production, qui sont assez courtes les deux, 10 minutes à peu près chacune. Mmh. Voilà.
Dans les films qui font peur direct, ils auraient mérité de sortir direct en vidéo. Saucisse.
Saucisse, et bientôt Saucette.
Ouais, mais Saucisse s'est fait bouffer quand même.
Voilà, grosse chute et il fallait la sortir cette blague. Hein. J'étais
avec une connaissance Place Saint-Georges cette semaine. Il y avait l'affiche de saucisse. Il dit hey, ce film il a été fait à Strasbourg. Oh oh oh. Voilà.
Le problème est là, c'est que peut-être les plus courtes sont les meilleures.
Ah ben, saucisse,
en tout cas, ils sont loupés. Clone aussi, qui à ce qui paraît n'a pas fait un démarrage monumental aux États-Unis.
Adaptation d'un graphic novel.
Oui, d'une bande dessinée. D'ailleurs, sujet qui est passé tout à l'heure sur la chaîne Senna.
D'accord.
Mais interview, franchement, en moyenne, hein, je veux dire, du dessinateur, c'est dommage. Il y aurait peut-être eu plus à poser comme question. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient franchement lu l'album.
Pourtant, c'est Jonathan Mostow qui est aux commandes. Ça fait un peu mal au cul quand tu vois qu'il a quand même fait des excellents films comme le film sur le sous-marin. Il avait fait le Terminator 3 qui était assez passable, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui avait fait aussi Breakdown avec Kurt Russell qui était loin d'être mauvais. Donc le gars, quand même, en a sous la pédale.
Bon, pour ressortir les histoires d'amour entre hommes, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'on flirte avec le sujet depuis tout à l'heure.
Hein. ça flirte. Et pour terminer, puisqu'on va passer à la télévision, la remarque qui tue. On a vu les 5 premières minutes de la nouvelle version de V qui va être diffusée par ABC en cours de semaine. Ça a été diffusé sur la série. Je pensais que tu avais fait un billet là-dessus parce que c'est toi qui m'as fait remarquer qui était le réalisateur.
Oui, alors c'est
Yves. Et là, on se prend une claque.
C'est Yves Simoneau. Alors, si vous avez la mémoire des noms, ça vous dira peut-être quelque chose. C'était le réalisateur de la mini-série, enfin la série télévisée avec Christian Clavier sur Napoléon. Et c'est un Canadien, québécois, voilà, qui se trouve aux commandes. Donc,
qui était pas trop mauvaise en plus, la série.
Ah ouais, était très très bien.
Ouais. Était pas trop mal. Et là, quand il a un budget encore mieux. Eh ben, on a l'arrivée des vaisseaux spatiaux et du plus grand écran plasma jamais vu sur Terre.
Oui, c'est vrai. Et moi, je suis méga fan de l'ancienne série et j'ai très très peur du résultat.
Il y a un extrait qui apparaît un petit peu plus loin, hein, ça faisait partie des deux extraits qu'on avait vus. C'est l'extrait de l'interview politique un journaliste.
Où
là, franchement, c'est une merveille d'écriture, je vais dire, à la politique, à la Maison Blanche, justement, à la West Wing. Alors on se dit, c'est pas mal, mais est-ce qu'ils vont tenir les 6 saisons promises? On verra ça.
Je ne sais plus les acteurs qu'il y a dedans, je me rappelle plus.
Je sais que c'est une Brésilienne qui joue...
Diana?
Qui joue Diana. Enfin,
est-ce qu'ils gardent les personnages? On ne sait pas.
On ne sait pas.
McDo Donovan, Julie Parrish.
Oh, on verra ça. Clark et Mayo, Inferno, c'est extrait d'un album CD promotionnel. De Mélusine, l'album de Mélusine, c'était Histoire à écouter au coin du feu. Ils avaient fait un album CD, chansons à écouter au coin du feu. Ils sont réunis en un week-end dans un studio. Allez hop, on fait des chansons pour déconner. Ça donne ça.
Bienvenue dans le monde des sorcières.
Au plus profond de la nuit, dans le ciel, s'envole.
Gus, à toi.
Qui était en train de nous expliquer la philosophie zen.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler du tir à l'arc.
Non, mais ça, c'était hors antenne. Allez, je crois qu'il y a une question de poupée de cire, poupée de son.
Quoi, tu parles de sorcière ?
Non, non, je parle plutôt de Dollhouse. Ah. Car, eh bien, ça débarque hein, sur votre écran de télé. Par contre, j'ai pas compris que ça débarque sur une chaîne, je veux dire, affiliée aussi peu regardée que Teva. Hein, on s'attendait quand même de la part de la nouvelle production de Joss Whedon un peu plus de respect, je pense, de la part des grandes chaînes.
Ah bah Desperate a commencé sur Teva, Desperate Housewives.
Ouais, mais c'est pas la même chose. Hein, parce que bon,
c'était pas sur Canal.
Non, avant c'était sur Teva. Avant,
c'était sur Teva. Pardon, ok, j'ai rien dit.
Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette espèce de buzz hein, qui a fait que Desperate est devenu. Oui. Ce qu'elle est devenue. Hein,
alors que Dollhouse a un peu plus de buzz.
Ok, bon, je veux dire, là, on sait que c'est Joss Whedon, on sait ce qu'il a déjà fait par le passé. Hein, on va pas trop revenir dessus. Hein, Buffy, Angel et toute la clique, en passant par Serenity et les petits trucs que toi t'aimes bien sur le web. Aussi.
Serenity et Firefly.
Firefly en
Firefly, voilà. c'est l'adaptation cinéma de Serenity qui avait été arrêtée en plein milieu puisque ça n'a pas marché.
Non, c'est l'inverse. C'est Serenity qui est l'adaptation de Firefly.
Ah, pardon. Bon, bah, je vais me chercher un café.
Ouais,
et il a fait Docteur Horrible aussi. Oui, profitons-en pendant que Xavier n'est plus là.
Mais justement, c'est ça, quoi. J'ai essayé de lui tendre la perche et il l'a pas, saisi. Du tout. Alors, Joss Whedon qui trouve également le moment, hein, et puis bon, il a arrêté, mais enfin, bon, là, c'est d'ailleurs sorti en album. Il est scénariste de comics, donc je vous avais parlé de son scénario sur Spider-Man, mais également sur les Astonishing X-Men. L'album est sorti, hein, c'est-à-dire que maintenant c'est plus la peine de se taper toutes les revues chaque mois et tout. Maintenant, clac, tu t'achètes l'album et t'as toute l'histoire. Bon, c'est pas mal aussi. Et là, bien Dollhouse, c'est quand même pas du très très récent, on va dire. Hein, ça a quand même 2 ans, quoi, déjà, hein, ce Dollhouse, mais c'est la première apparition donc sur un écran. Du côté de la France, sur Teva, à partir de jeudi prochain. Et là, on t'en fout une plâtrée avec pas moins de 4 épisodes sur cette première saison, qui en compte 13. Alors, on dit beaucoup que, bon, ceux qui ont déjà vu la série disent que, bon, ben, sur les 13 épisodes, c'est bien, ça monte doucement, y a un super crescendo, avec justement cette espèce de finale assez grandiose à la fin de la première saison. Parce qu'à l'époque, Joss Whedon ne savait pas s'il allait être reconduit, s'il y avait à avoir une deuxième saison, et que donc il s'était surtout dit ok, j'écris à fond, et puis
surtout que les chiffres avaient été assez catastrophiques,
voilà,
au début.
Ça.
Hein,
c'est ça, c'était pas terrible, donc bon, bah, il savait pas du tout quoi s'il allait pouvoir faire une deuxième saison, et avait donc pendu un final assez grandiose dans la fin de la saison 1. Mais une saison 2 est tournée, donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour la Dollhouse de Joss Whedon. Alors,
et donc c'est une série qui a été supprimée au final ou non?
Bah, pour l'instant. Non,
pour l'instant, non, il y a deuxième. Une deuxième saison et c'est en suspens pour la troisième.
Voilà, ils sont à la deuxième saison pour l'instant et voilà. Hein, donc pour l'instant, ça marche un petit peu mieux, on va dire. Alors, c'est surtout Elisa Dushku, bien entendu, qui est, déjà une des actrices fétiches de Joss Whedon. Et là, il a bien choisi son coup d'ailleurs. Je crois que ça fait pas mal de temps, depuis justement Buffy, qu'ils se connaissent et que Joss Whedon avait. Justement à cœur de monter un projet par rapport à Elisa Dushku, par rapport à son personnage, enfin, ou à ses personnages futurs. Et là, elle joue le rôle de Echo. Echo qui fait partie de la Dollhouse, quoi. La Dollhouse, c'est des poupées d'hommes et de femmes qui sont programmées pour remplir des missions de tout genre. Alors, ça peut être humanitaire, ça peut être romantique, genre escort girl, ça peut être illégal, hein, genre récupérer des documents, enfin n'importe quoi. Et à chaque mission, donc, la poupée est programmée avec une nouvelle identité, une personnalité en adéquation avec la mission. Et à la fin de la mission, à la fin de chaque mission, la mémoire est à nouveau effacée. Et donc ça se passe comme ça. Et Elisa Dushku, Echo, donc, fait partie de cette Dollhouse. Mais Echo, donc, cette espèce de poupée, commence, dès le début de la saison, à avoir des souvenirs de son passé, ce qu'elle n'est pas censée avoir, justement, quoi, ce genre de souvenirs. C'est ça, donc, le pitch de Dollhouse, avec, donc, bien une construction narrative, une identité par épisode, on va dire, une identité différente par épisode pour Echo, qui remplit donc ses missions, mais avec également l'histoire sous-jacente, c'est-à-dire les souvenirs qui vont revenir et ce qui va se passer, ça pour l'instant il va falloir voir ce Dollhouse sur Teva jeudi prochain à partir de 20h35, mais par contre ça va être le marathon hein, c'est encore pour la semaine prochaine avec 4 épisodes diffusés à la suite. Ouf, sur Teva.
Ah, ouais, 4 épisodes d'une heure
du 1 au 4 du 1 au 4 alors bon tant pis, avec le premier le fantôme, le 2 à la vie à la mort, le 3 aux alentours de 22h15 mourir sur scène, et le 4 réinitialisation. Donc c'est une série qui compte 13 épisodes dans cette première saison. C'est la nouvelle Joss
Whedon.
Attends,
c'est quand sur TVA?
Jeudi prochain à partir de 20h35. Au moins ça commence tôt, donc ça finira un peu moins tard.
Ah, tout le monde s'est calé à l'heure France Télévisions. C'est gros, ça fait du bien d'ailleurs.
Bah, ce rythme-là, s'ils diffusent 4 épisodes d'un coup, ils vont finir la série en 4 semaines.
3.
Oui, non, ouais, mais 13. Et...
Ouais. Ouais, non, mais bon, laisse tomber, quoi, c'est pas la peine, quoi, mais bon. Du côté des nouveautés également.
Sinon, tu disais que Elisa Dushku était une actrice fétiche de Josh Whedon. Il y a Summer Glow aussi, qui a rejoint la série suite à l'arrêt des chroniques de Sarah Connor.
Et il y a également dans cette série Frank Kranz, également Olivia Williams hein, bien sûr, et d'autres, donc Joss Whedon qui arrive toujours à nous trouver bon, des acteurs ou des actrices qui sont pas trop connus en fait et qui se révèlent relativement bons hein, c'est-à-dire que bon, c'est des acteurs ou des actrices qui ont déjà un background, c'est-à-dire c'est pas des petits jeunes qui ont bien débauché sur un casting comme ça, à toi t'es beau, je t'ai repéré dans la rue, viens jouer, non, c'est déjà des gens qui ont du background, qui ont du travail derrière eux, hein, donc, mais qui sont plus ou moins passés à travers les mailles du filet, hein, et qu'on repère justement, quoi, ben, dans ce genre de production, hein, bon, ben, c'est pour Sarah-Michel Gellar, c'est pour David Boreanaz que ça a bien marché, un petit peu moins pour Seth Green, hein, qui jouait le rôle de Oz dans Buffy, hein, mais qui se démerde pas trop mal, hein, c'est-à-dire qu'il continue plus ou moins à avoir toujours plus ou moins le même rôle qu'il a dans Buffy, le rôle d'Oz, il essaie de transposer un petit peu dans ses autres personnages dans d'autres films, ça marche un petit peu plus ou moins bien, mais sinon il faut quand même reconnaître à Joss Whedon justement de sortir comme ça des acteurs, des actrices hein, qui sont quand même pas dégueulasses. C'est bon, Sarah-Michel Gellar, de toute façon, elle a déjà son background. Oui. C'est une enfant actrice, de toute façon. Hein.
Et d'ailleurs,
c'était sa destinée.
Nous aurons une petite pensée pour James Marsters, qui alterne le bon et le mauvais entre Torchwood et DBZ le film. Pardon.
T'as traité mauvais Torchwood ?
Non, j'ai dit le bon et le mauvais parce que j'ai mentionné Dragon Ball aussi.
Non, mais.
Ah, pour toi, Dragon Ball, c'est bon, d'accord.
Non, vas-y. Ouais, ouais.
Humour, allez, hop.
Ouais, mais Marster, c'est un petit peu l'exception parce que Marster, je te demande déjà, il est pas américain, il est anglais. Et en plus, au niveau générationnel, c'est pas la même chose. C'est quand même le mec qui est vachement plus âgé que le reste du casting, hein, puisque bon, bah, il les dépasse d'au moins 10 ans, tranquille, quel que soit le membre du casting. Je crois qu'il est même plus vieux que Joss Whedon d'ailleurs. Donc, il me semble. Hein,
Quoi, les cheveux décolorés?
Non, Masters, il est dans la bonne quarantaine, là, tranquille, quoi, depuis. Donc c'est Dollhouse, hein, je le répète, c'est à partir de jeudi prochain sur Teva à partir de 20h35. Mais par contre, il va falloir se taper 4 épisodes. Alors du côté des séries qu'on connaît déjà, qui sont pas complètement inédites, les saisons sont inédites. Voilà la deuxième saison de Saving Grace qui démarre à un horaire très franchement indu. Ça aurait pu passer une heure plus tôt, c'était pas dommage. Hein, de toute façon, bon, encore un peu plus tôt. C'est vrai que des fois, ça traite de certains sujets qui sont un petit peu hard. Hein, c'est vraiment une série pour adultes, hein, pour personnes matures quand même. Alors samedi 23h15 ce soir sur TF6. Là, c'est le début de la deuxième saison de Saving Grace, avec l'histoire de cette enquêtrice hein, qui ça se passe à Oklahoma City, il me semble, et c'est interprété donc le personnage de Grace par Holly Hunter. Et ce qui lui arrive dans les premiers épisodes, c'est une nana qui est flic, donc qui est inspecteur de police, mais qui picole comme c'est pas permis, qui baise à tout va, enfin bon, qui vraiment a une vie de pécheresse assez assumée, on va dire, et qui a un accident de bagnole, elle renverse quelqu'un, bon bien sûr elle est bourrée, hein, c'est normal, elle renverse quelqu'un et tout, et là ben il y a un ange qui apparaît, qui lui va dire ok, maintenant tu vas plus ou moins t'amender, tu vas essayer de faire un petit peu le ménage dans ta vie, tu vas essayer de voir ce qui se passe, parce que sinon ta vie elle va vraiment partir en couille. à fond les manettes, quoi. C'est expliqué plus ou moins de cette manière. En plus, c'est pour ça qu'on se dit, wow, c'est quoi ce truc? Et, donc, elle va essayer plus ou moins de s'amender tout doucement, petit à petit. Et donc, de temps en temps, au fur et à mesure des épisodes, on voit apparaître cet ange, comme ça, qui est là, d'un seul coup, à côté dans la bagnole, il y a un ange et tout, puis le mec, il commence à lui causer, et puis il lui cause très crûment, d'ailleurs, hein. C'est ça qui est assez rigolo. Il n'y a pas le décalage qu'il y a d'habitude quand un ange qui cause, c'est toujours avec un langage vachement châtié et tout, c'est parole d'évangile direct. Visiblement il en a rien à péter du langage châtié et tout, quoi. Donc, et c'est ce qui fait le charme d'ailleurs, hein, de cette série, c'est-à-dire d'une part son traitement de série policière normale, hein, avec chaque fois résolution d'enquête par épisode, mais également le traitement donc de Holly Hunter par rapport à cet ange, hein, qui est vraiment très 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 bien, très juste, et qui, de par l'interprétation de Holly Hunter, a fait beaucoup, quoi, pour le succès de cette série. Et aux côtés de Holly Hunter, on a donc Leon Rippey qui joue le rôle de l'ange, Kenny Johnson, Bailey Chase, Gregory Norman Cruz. Donc ça démarre ce soir, c'est la saison 2, hein, 23h15, c'est sur TF6. Ça s'appelle Saving Grace. Et sinon, jeudi prochain, 20h35, oula, 45,
attends, tu fais peur, là.
TF1, oula. RIS Police Scientifique.
Oh non,
bon, je resterai sur TV1. Hein.
Avec les deux, carrément, les deux patrons de la brigade, l'ancien et le nouveau, qui sont réunis pour une enquête lors de l'épisode Parade Mortelle de la saison 5. Jean-Pierre Michael, le commissaire Marc Venturi, vient filer un coup de main à Philippe Carrois, qui est le nouveau patron, donc qui a remplacé justement Jean-Pierre Michael. C'est jeudi soir, jeudi prochain, dans RIS Police Scientifique, dans l'épisode Parade Mortelle de la saison 5, suivi d'un autre épisode inédit qui s'appelle Feu Intérieur.
Non, j'ai essayé de retrouver le générique du cirque Pinder, je ne l'ai pas retrouvé.
Ah zut, dommage.
C'est dommage, ça aurait été de circonstance.
Aïe. Et alors ce soir, bien sûr, sur M6, hein,
Camelot.
Les trois derniers épisodes, Arthurus Rex, Lacrimosa et Dies Irae. Ça va être la nuit Camelot carrément, quoi, parce que après les trois épisodes donc de cette saison 6, de ce livre 6, et bien à partir de 23h25 jusqu'à 2h30 du matin,
la rediff
Camelot, la nuit la plus culte, avec une compile best-of des trois premières saisons, les meilleurs moments, les répliques qui sont devenues cultes, les scènes qui sont devenues cultes de la série Camelot, tout ça pendant 2 heures, et avec les commentaires des différents intervenants.
Ah ouais,
c'est
et
pas
des
faux,
différents
des commentaires
participants.
D'accord. Un petit tour de table, réplique culte de chacun.
C'est pas faux.
Oui. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux.
Je suis pas tellement Camelot, alors bon, tu vois.
Le gras, c'est la vie.
Oui.
On en a gros.
Et pour information, sur la Wikipédia, il y a les règles complètes
du jeu gallois avec les cartes
pichouettes et tout. Oui. Et c'est un jeu à boire, qui est adapté d'un jeu d'école primaire, quoi.
Qu'on va faire les règles allégées parce que les règles d'origine elles sont velues.
Voilà. Donc il y a pichouette et tout ça, mais ça c'est les noms. Hein. Le pichouette, c'est le tirage où tu as un 5 et un 2.
D'accord.
Donc voilà, donc en fait tu as 3 dés, c'est suivant si un dé fait la somme des deux autres.
Et là l'important c'est les valeurs.
Voilà. Mais on peut le faire avec des poutres.
Donc vous avez compris ce qui vous attend donc ce soir. Après Camelot, donc après les trois derniers épisodes, à 23h25, Camelot la nuit la plus culte, et jusqu'à 2h30 du matin. Hein, donc ça va être vraiment une soirée, presque une nuit Camelot ce soir. Du côté des autres petits inédits sur France 2, eh bien déjà dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, ces adaptations franco-françaises de l'œuvre d'Agatha Christie.
Deux très 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 hautes volées.
Très bien, avec un nouveau, donc encore un inédit, vendredi prochain à 20h35 sur France 2, La Maison du Péril, avec Antoine Duléry, excellent, Marius Colucci, Elsa Kikoine, ça va quoi, c'est pas mal. On achète à fond. Et par contre, France 2 nous fait également bien un inédit mercredi, dans le polar également, hein, mercredi à 20h35, avec adapté d'un bouquin de Fred Vargas, vous connaissez, hein, connaît le commissaire Adamsberg, oui. un peu, hein, quand même, hein. Ouais, bon, ok.
Le piton, quand tu nous en parles.
Ouais, non, moi pas trop, hein, figure-toi. Je suis pas trop fan, quoi, en plus, quoi, tu vois. Et là, bien, ce qui est quand même plus marquant, c'est la personnalité de la réalisatrice de L'Homme à l'envers, film, téléfilm, donc, de cette année, parce qu'il s'agit de José Dayan, qui nous avait habitué.
La réalisatrice?
Ah, ben oui. Qui d'autre?
Quand on dit réalisatrice, ça peut être qu'elle.
Ben oui. Non, il y en a d'autres, hein, quand même, oui, quoi, dans le monde de la télé, mais José Dayan, qui est à l'origine de toutes les ressucées lamentables qu'on a dû supporter.
Ah, oh, Monte Cristo, j'ai trouvé ça sympa, moi.
Ouais, mais enfin, toutes.
C'est vrai que les rois maudits.
Toutes les réadaptations, les rois maudits, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. C'est du José Dayan. Alors, bon, ben là, ben, l'univers est complètement différent, ce n'est plus la reconstitution historique. C'est du polar, donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Bon, c'est quand même une nana qui a du savoir-faire, hein, faut quand même lui reconnaître ça. Et aider avec un casting qui a l'air aussi bien d'enfer, hein, Jean-Hugues Anglade, qui est décidément partout à la télé en ce moment,
ouais.
Hélène Filière, Tobias Moretti, Jacques Spicer et Maurice Garrel. Donc, ça peut le faire, hein. Effectivement, c'est mercredi prochain, 20h35 sur France 2, L'Homme à l'envers de José Dayan avec Jean-Hugues Anglade et Hélène Filière d'après l'œuvre de Fred Vargas.
Sinon, c'est bien de faire des petits débriefs de programmes dont tu nous parles et qu'on a vu depuis. Je pense que ça doit être ton cas, Xavier, puisque justement tu nous avais mis l'eau à la bouche avec le documentaire sur la crise de 29. Et c'était vraiment super.
C'était celui qui était diffusé sur toute l'histoire. Je l'ai manqué, mais j'ai vu après les extraits au zapping, et ça va, je l'avais vu, oui, il était déjà passé sur une chaîne AV.
Ouais,
mais c'est vrai qu'il est très très bon.
Deux épisodes où tu comprends vraiment la crise a provoqué.
Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est que c'est exactement les mêmes germes que la crise qui nous touche actuellement, c'est-à-dire l'emprunt absolument exacerbé et la spéculation sur l'argent emprunté. Exactement la même chose, c'est hallucinant, c'est impressionnant. Surtout, ce qui est très amusant, c'est de voir tous les profs d'économie de l'époque qui disent « Non, non, ça y est, la crise est finie, on peut reconsommer. Non, nos banques sont solides, il n'y a aucun problème. » Et t'en as un qui arrive, paraplégique, mais hémiplégique, mais il connaît rien, lui, à la banque et tout. Bon, on va fermer les banques pendant 4 jours, elles vont faire leurs comptes, et le 5e jour, celles qui rouvrent, c'est celles qui auront des sous.
Et puis t'as des anecdotes aussi où il y a Churchill qui rentre à son hôtel aux États-Unis et qui voit qu'il y a un mec qui se suicide juste sous ses yeux, qui se défenestre.
C'est hallucinant.
Ok, quelques petits films pour terminer. Hein, et là, je vous ai fait une liste allégée. Rassurez-vous. Hein,
Attends, il faut le sponsor. Alors, il faut le sponsor d'abord.
Ah bon, d'accord. Sponsor.
Try to remember when life was so tender and happy. FMR 89.1 MHz.
Ok.
Alors, comme j'ai récupéré tes feuilles de la semaine dernière, je te soupçonne de ne pas avoir chroniqué tout ce qui avait marqué dessus, quand même.
Ben non, c'est ce que j'ai dit.
Ah,
hein.
Voilà.
J'ai dit, il y en avait trop, là. J'avais fait 5-6 pages. C'était,
Donc, amis auditeurs qui nous suivent aussi sur le blog, sachez que la liste des films et du sport,
C'est indicatif. De même que les news que l'on indique et les news que l'on traite dans l'émission, qu'on ne reporte pas forcément dans le résumé. Ou des bouquins qui sont juste rapidement évoqués, mais que l'on ne chronique pas pour des raisons diverses et à varier,
voilà.
Alors, c'est pratiquement qu'une chaîne ou deux chaînes par soir, hein, on va s'en tenir là. Ouf. Avec ce soir TCM qui vous fait la soirée d'enfer magnifique de films qu'on a déjà vu 50 fois chacun. Mais ce sont quand même des monuments, donc ça fait pas de mal. C'est le genre de film que tu peux revoir et tu t'en lasses pas. C'est ça qui est intéressant, quoi, justement, quoi. Et dans le cas du deuxième, là, c'est encore plus remarquable parce que c'est un film de suspense, on va dire. American Graffiti sur TCM ce soir à 20h40. Le meilleur George Lucas, et là, je pèse mes mots,
oui.
Hein, de toute façon, avec Richard Dreyfuss, Ron Howard, Opie, c'est Opie, Paul Le Mat, Cindy Williams et Harrison Ford, qui est vraiment très menaçant, mais il se casse quand même la gueule à la fin. Et bon, bah, tout ça, c'est dans American Graffiti avec Wolfman Jack, enfin, toute la bande. Mmh. Bref, c'est tout simplement magnifique. Suivi à 22h30 du film d'horreur que, c'est pas vraiment de l'horreur, mais enfin bon, c'est plutôt un thriller, on va dire, hein. C'est La Maison du Diable de Robert Wise en 63 avec Julia Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Rustam Lin. Robert Wise, c'est quand même le mec qui, oui. 12-13 ans plus tard, il a nous faire Star Trek.
Bah Robert Wise, c'est West Side Story aussi.
Oui aussi, mais bon, Robert Wise, de toute façon, quoi, c'est un des très très grands metteurs en scène de Hollywood.
Hein. Voilà, tu peux le mettre sur n'importe quel genre, lui, il se démerde. Hein.
Oui, mais il est mort il y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Hein, je vous avais fait une petite topo sur
ça. On avait fait une bio qui était pas mal.
Oui, non, mais justement, quoi. Bon, c'est la mélodie du bonheur aussi, il me semble, quoi. Mm-hmm. Tu vois, The Sound of Music. Oh oui, et tout ça.
Il y a plein d'excellents films qui passent en ce moment sur TCL.
Ensuite, demain, sur Cinéma Classique, encore une soirée de bons films. Avec à 20h, Les Ponts de Tokori de Mark Robson, 1954, avec William Holden, Grace Kelly, Frédéric March et Mickey Rooney, qui raconte l'histoire d'aviateurs et des petites angoisses amoureuses qu'ils ont. Hein. C'est des pilotes qui vont larguer des bombes, justement, sur le Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sur ces fameux ponts de Tokori, parce que bon, c'est des ponts qui permettent l'acheminement encore des munitions et de la nourriture pour les Japonais qui sont de plus en plus en mauvaise posture. Mais le film est pas mal, le film est sympathique. Hein. William Holden, excellent acteur, très grand acteur, hein, qui n'a pas eu la carrière qu'il mérite, ce mec. Suivi à 22h25 d'un grand classique également de John Ford, Mogambo, avec Clark Gable, Grace Kelly, Ava Gardner.
Clark Gable.
Et Donald Sinden. Et demain également, sur la chaîne Action, un film que si tu l'as jamais vu, celui-là, il faut que tu le regardes, parce que celui-là, vraiment, dans la catégorie, c'est une bonne bouse, mais ça fait plaisir de le voir. Ouais. C'est Danger Zone, bien sûr, de Alan Hinzpan, avec Billy Zane et Robert Downey Jr.
J'avais vu.
Ah, magnifique. Excellent, excellent.
Alan Smithy?
Collins. Hein?
Alan Smithy?
Non, Alan Eastman.
Ah, d'accord.
En 96.
J'aurais pu croire
en 96, un bon millésimé pour Robert Downey Jr. Et également pour Billy Zane, je peux le dire, parce que là, vraiment, c'est le genre de film qui dépasse un petit peu l'entendement, quoi, mais bon, c'est filmé, tu te demandes comment le mec il a fait pour passer le cap, quoi. Mais bon,
trois dépressions,
quand même assez jouissif.
Du psy.
Tu vois vraiment que les acteurs, ils en ont plus ou moins rien à foutre et qu'ils sont pratiquement en roue libre, donc ça fait plaisir. Billy Zane est tout à fait dans son environnement favori. Donc ça roule à fond les manettes. C'est demain soir sur la chaîne Action, Danger Zone, à 20h40. Sinon, un film pour Thomas, lundi, sur NRJ 12, avec à 20h35, Terreur à Hong Kong, de Wong Jing et Corey Yuen en 95, Jet Li, Jackie Chong, Charlie Chow, Billy Chow, Valerie Chow.
C'est super chaud.
Ouais. Et c'est pas mal du tout. On va regretter que ce soit diffusé dans sa version française, mais bon, là, on n'aura pas tellement le choix. Sinon, lundi également, sur Cinéma Classique, à 20h40, Les Canons de Batazi. Alors, Batazi, ça se situe pas au Japon comme le Tokori, mais ça se situe en Afrique. C'est un film de John Guillermin en 64 avec Richard Attenborough, Flora Robson, Errol John et Patrick Holt. C'est plutôt un film de guerre. Suivi à 22h25 d'un des rares films comme d'Anthony Quinn. Et je crois que c'est son premier, il me semble. Non, c'est pas son premier d'Anthony Quinn. C'est Les Boucaniers, qui raconte l'histoire romancée, mais plus ou moins vrai, d'un banquier bordelais, Jacques Lafitte, qui est parti s'enrichir encore un petit peu mieux de l'autre côté de l'Atlantique durant les siècles où on pouvait s'enrichir facile, surtout avec la marchandise humaine.
Donc Jacques Lafitte, c'est pas le pilote, hein.
Non, c'est un banquier qui s'appelait Lafitte, hein, qui était de Bordeaux et qui est parti justement du côté de la Nouvelle-Orléans.
Et connu pour le château Lafitte.
Et ben voilà, tu vois, quoi, en plus.
Voilà, qui est dont un sommelier de la Maison Blanche a beaucoup apprécié, qui fut par la suite président. Voilà, ça c'est pour la petite histoire.
Alors, Les Boucaniers, avec Yul Brynner, Claire Bloom, encore elle, Charles Boyer et Inger Stevens. Mardi, sur Cinéma Classique à 20h40, Le Grand Silence de Sergio Corbucci, un des meilleurs western italiens du monde, avec Dans la neige en plus. Hein. Ça m'a rappelé, tu sais, le truc que tu m'as passé là.
Sukiyaki Western Django.
Voilà, et ben c'est pile poil, tu vois, il y a des scènes, il y a des plans, c'est pile poil Le Grand Silence, sans problème, parce que c'est également un film qui se passe, c'est un western, mais qui se passe dans la neige. Tu vois, il fait froid et tout. Ils se les pèlent tous, mais ils sont quand même là. De Sergio Corbucci en 68 avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf et Luigi Pistilli. Là, vraiment, le film, il est bien, quoi. Il y a pas de problème. Bon, c'est la période.
C'est un peu la fin, hein,
très
de l'âge d'or. Hein.
Ben, c'est pratiquement la fin, là. Hein. C'est-à-dire, la fin, généralement, elle est située à 69, quoi. Et là, on est pratiquement à la fin. C'est déjà un décalage par rapport au premier Western Spaghetti, qui était plus violent, parce que là, il y a moins de violence, il y a plus de scènes très lentes, de contemplation, de paysages, de trucs comme ça. Tu dis, oh putain, c'est quoi ce truc et tout. Un petit peu comme dans Il était une fois dans l'Ouest, tu sais, t'as des très longs moments comme ça, des travelling de caméra très lents. Et là, c'est un peu pareil, sauf que le décor est vraiment pas le décor habituel. Il fait pas chaud, il fait très froid. C'est la différence et tout est blanc, enfin bon, mais c'est vraiment très très bien. Et c'est suivi également d'un bon classique du western de Sturges, John de son prénom, Le dernier train de Gun Hill, avec Kirk Douglas, Anthony Quinn et Caroline Jones en 58. Mercredi, un seul film, non deux, allez, un seul film sur Syfy, 20h45, The Thing de Robert Carpenter.
John Carpenter.
Big John.
T'as qu'à dire Big John.
Big John en 82.
Un remake.
Oui, mais là, tu vois, c'est un remake que tu te dis, même si t'avais pas eu l'original, c'est cool. Ça fonctionne, c'est impeccable, c'est nickel. Et c'est un film d'une autre génération, en fait. Hein. Tu vois bien la différence entre le premier et la chose de l'autre monde. Le Thing, le film original. C'est pas la même génération, quoi. Le traitement de l'horreur, le traitement des trucs, ils n'ont rien à voir l'un par rapport à l'autre. Et ce qui se fait, justement, que c'est un très bon Carpenter, en fait, du moins pour moi, avec Kurt Russell, Richard Wishart, Tiki Carter, bon,
Keith David aussi, dire, quoi, il me semble.
Ouais, me semble aussi, quoi. Ouais.
Et sinon, en tout cas, c'est le dernier grand film d'horreur qui a utilisé entièrement des effets mécaniques. Ensuite, il y a eu la vague du numérique et de ILM juste après. C'était en 82. Donc ILM avait bossé sur Star Wars et juste après, c'était la vague des Willow, des
Terminator.
Films, non mais Terminator le 1 c'était du mécanique, c'était
oui, Terminator, c'était du mécanique, le 1, ouais.
Mais
c'est après.
De... Terminator, c'était en
84.
84, ah, ouais. C'était la fin de cette période-là. Oui.
Ou sinon, mercredi également, Jared, la fin de l'innocence de Sam Mendes, qui est vraiment bien, quoi. Franchement, je l'ai vu il y a pas longtemps, et puis j'ai trouvé que Gyllenhaal, il est vraiment excellent.
Très bien, oui.
Vraiment excellent. Hein. Là, je comprends pourquoi on l'a choisi pour le rôle principal de Zodiac. Tu vois, avant, je comprenais pas trop parce que j'ai trouvé qu'il était bon dans Zodiac et tout, mais il y a également donc. Peter Sarsgaard, Jamie Foxx qui est excellent dans ce film, quoi. Moi j'aime pas tellement Jamie Foxx, mais là il est bon dans ce film. Et un Chris Cooper que tu vois pas assez souvent, mais dans le rôle du lieutenant colonel, qui est vraiment magnifique.
Ce pétage de plan des deux snipers à la fin. Allez, c'est nous, tu es un gars, merde.
Ouais. Non mais c'est très bien foutu, hein, y a pas de problème, quoi. Donc c'est sur la chaîne Action mercredi prochain à 20h40, Jared, la fin de l'innocence. Jeudi sur 13ème rue, ouais, ça c'est une bonne bouse, mon gars. 13e rue, 20h40, le 5e commandement de Jesse V. Johnson et Rick Yoon, 2008. Donc c'est très récent. Et en plus, Rick Yoon, il joue dedans, avec à ses côtés Bukamoud Bin, Keith David et Dania Ramirez. Et je peux rien vous dire sur ce film, parce que bon, j'ai rien compris au pitch qui est marqué dans le programme.
C'est comme les pitchs, quoi, des vidéos cassettes là, de American Fight Video, où en fait ça n'a rien à voir avec le contenu de ce film qui en fait est philippin. Voilà, Western
et
philippin.
Et jeudi, je me suis dit, c'était la soirée pour, donc on va y aller à fond, avec également sur Syfy à 20h45, Alien Express de Turi Meyer en 2005 avec Lou Diamond Phillips. Alors là, on se tait. Kelly Brotherson et Sean Bott. Et ceux qui ont dit Sam Bott, c'est pas bon du tout, quoi. Alors c'est pareil, hein, c'est
c'était pour alien, essayer de caler une mauvaise
histoire d'un alien qui descend sur Terre et qui veut dégommer tout le monde et tout. Enfin bon, tu vois, mais heureusement il y a Lou Diamond Phillips, donc ça va pas se passer comme ça. Vendredi, pour terminer cette sélection de films à la télé sur TF6, la soirée, parce que c'est une mini-série. Alors les mini-séries, c'est selon que tu fais deux films d'1h30 ou alors quatre petits de 50. hein, c'est comme tu veux, c'est le principe de la mini-série. Et là, c'est ce qui se fait déjà depuis pas mal d'années, avec plus ou moins de bonheur. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, Dinotopia, tu vois, des trucs comme ça, c'est-à-dire bon, bah, des mini-séries qu'on s'est programmées, avec un casting quand même relativement conséquent, et avec un réalisateur qui a déjà fait ses preuves, nous a déjà sorti quelques petits blockbusters. Là, c'est La Malédiction du Pharaon de Russell Mulcahy, en 2006, ah oui, oui. avec Leonor Varela, Casper Van Dien,
ah, je l'ai vu, celui-là.
Jonathan Hyde, Steve Waddington, Malcolm McDowell, Simon Callow. Enfin, tu vois, bon, laisse tomber. Là, il y en a beaucoup que j'ai pas noté. Et donc, c'est une mini-série là. C'est les deux téléfilms à l'un à la suite de l'autre, c'est-à-dire de 20h40 jusqu'à 23h50. La Malédiction du Pharaon, vendredi prochain sur TF6 à partir de 20h40.
C'est aussi le type de cinéma enregistré pour des dimanches après-midi pluvieux quand vous avez rien à faire.
Tout à fait, ouais, ce genre de truc que ça a l'air à regarder justement le dimanche après-midi tranquille, quoi. Donc t'es là, tu glandes, tu dis bon, ok. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Hein, c'est quand même pas mal. Ensuite, vendredi également sur la chaîne Polar, une curiosité, je vous avais parlé de Nick Carter la semaine dernière. Il revient et il est pas content. À 21h sur la chaîne Polar, Nick Carter et le Trèfle Rouge, un film français, s'il vous plaît, de Jean-Pierre Savignac en 63, avec Eddie Constantine, s'il vous plaît, dans le rôle de Nick Carter, Nicole Courcel et un certain Joseph Dassin, qui après il a raccourci son nom parce que ça faisait trop évident. Et il est devenu
ça
un petit peu
plus
chanteur,
américain,
tu vois.
Voilà. Ouais.
Voilà. Sur à FX fleur. Également, et là c'est le fleuron, le pompon, tout ce que tu veux. C'est vendredi prochain sur FX à 21h. Hercule à la conquête de l'Atlantide, un grand classique du peplum italien
ouais.
Vittorio Cotofavi en 1961 avec Reg Park. Ah ouais, Faith Payne, Luciano Martin et Laura Altan.
Et on va terminer avant ça avec la partie agenda de cette émission.
Ah bah oui, quand même.
Quand même,
une fois
s'il vous plaît.
Qu'on a le temps.
Pour une fois. Oui, enfin, on déborde quand même déjà de 5 minutes. Hein. Et il y a le match TF1 M6 après Icar, ex-Francard. Il a changé de pseudo. Et il dessine Terre lointaine. Le deuxième tome vient de sortir et c'est avec Léo au scénario. Il sera en dédicace vendredi prochain à la librairie Album à partir de 15h. Album ex-BD ciné. Le lendemain, samedi, à Terre de Légende, on retrouvera Christophe Gibelin, dessinateur et scénariste des Ailes de Plomb, mais surtout qui vient de sortir un artbook, Aero Artbook, sur justement tous les coucous de la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale, sur lequel il a une immense passion de dessin. Dans le coup quand même, c'est pas inintéressant, c'est franchement un beau bouquin, et les Ailes de Plomb, c'est un putain de polar qui sort chez Delcourt. La bourse de la bande dessinée, c'est de la bande dessinée d'occasion qu'on peut acheter, revendre, etc. C'est dimanche 15 novembre à Ramonville-Saint-Agne, c'est au sud de Toulouse, au bout de la ligne B, à la salle des fêtes Parc Technologique du Canal. Et à noter que normalement devrait sortir en même temps le BDM, l'Argus de la bande dessinée. On verra qui c'est qu'il aura.
Pour caler les armoires. Oh.
Pour nous, c'est un putain d'outil technique et aussi pour les vendeurs de BD d'occasion.
Non mais c'est vrai que si t'as des papiers froissés, tu les mets par-dessus et c'est un
repavé. Ah, c'est idéal, parce que maintenant on trouve plus les annuaires papier, donc faut bien remplacer et comme on a revendu son Minitel, il y a carrément des Minitel. Le troisième Toulouse Game Show aura lieu le 28 et 29 novembre à la salle Diagora à La Beige. Pour l'instant, pas beaucoup de précisions. C'est un peu dommage. On sait déjà qui sont les grandes stars de la télévision qui viennent, alias Corinne Emec et l'équipe de Noob,
l'équipe de Nerds. Voilà.
Voilà.
Et puis on a toujours le retour de l'habitué Bernard Minet, qui est le parrain de ce salon.
Et c'est quand même quelqu'un, on aurait tort de croire que c'est quelqu'un qui se la coule douce dans sa... Non, il a vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui prend au second degré ce qu'il a été.
Allez,
il
dans les archives
bien.
De nos émissions pour réécouter l'interview.
Ça a vraiment été un grand moment avec lui et c'est un personnage qui quand même mérite le respect, quand même. Mine de rien. On s'est foutu de sa gueule, on n'en a jamais lu. Et Serge Pelé sera en dédicace à Terre de Légende samedi 5 décembre pour Orbital. Dans le troisième tome est sorti chez Dupuis avec une exposition de planches originales. On vous en recase. D'ici là. C'était le supplément week-end numéro 213, thématique Michael Jackson. Pour ce ceux qui l'ont pris en cours de route, sur le stream qui est en panne ou sur la diffusion FM. Thomas, est-ce que tu peux faire un résumé de ce qu'ils ont manqué?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'était une émission spéciale Halloween Michael Jackson, où il était question d'univers masculin, de savants, de pédales, de prison, d'amitié virile et moite. Il était question également de lieux de vacances presque annulés, de l'autobio, on a eu un top 5 des adaptations du Gaulois teigneux, de la maison de poupée, des films qui font vraiment, vraiment trop peur. Du roi dépressif bien mal entouré, on a eu du film allégé, du gable, de la bouse jouissive, du chaud, des cow-boys qui se les pèlent, et du film à regarder le dimanche après-midi.
Non d'un maquillage de zombies, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de notre émission, retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, ou encore aller sur nos Facebook, nos Twitter et nos blogs. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, tout attaché sans accent, supplementweekend.fr, ou sur radio-fmr.net. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et dans le prochain épisode... prochain épisode, je crois qu'il y aura de l'historique autour de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura le nouveau tome du Grand-Duc.
Ah oui, il est certain qu'on parle des avions. Tiens.
Ouais, je crois que l'éditeur a encore fait une couffe et me l'a envoyé au nom d'ActuaBD. On n'a pas fini dans les histoires.
Il sera question d'OVNI à travers une BD. Et au niveau cinéma, je sais pas encore.
Voilà, bah, donc pour en savoir plus, la semaine prochaine, même à même fréquence. Ciao, bye bye, à plus.